hauts et des bas, la vie, de nouveaux horizons, c'est la règle de trois de Nathalie Cabrol. Sa jeunesse est marquée par des hauts et des bas. Née à Bagneux en 1963, elle se révèle vite très curieuse et se passionne pour l'apnée. Je grattais toujours par terre pour voir ce qu'il y avait en dessous de la surface et j'ai fait pareil avec l'eau, dit-elle. Elle apprend à plonger seule dans le lac de Garde en Italie ou dans le sud de la France en mer Méditerranée et à la maison, elle dessine des vaisseaux spatiaux. Ils me transportaient loin d'un monde physique dans lequel je me sentais limitée, écrit-elle dans son livre Voyage aux frontières de la vie, paru en 2021. Devenue planétologue, Nathalie Cabrol est invitée en 1989 à la télévision dans le cadre de la fête de l'astronomie pour parler de la planète Mars.
Quelle température?
Moins 50 en moyenne, moins 125 à l'extrême.
Bon,
et plus 27 quand même l'été.
Et une atmosphère ténue?
Très ténue, 6 millibars, c'est 1013 pour la Terre et c'est surtout pas très respirable pour un bon terrien, 98% de gaz carbonique.
J'ai fait de l'astrobiologie, la recherche de la vie dans l'univers, le but de ma vie, dit-elle. Installée aux États-Unis depuis 1994, elle mène de nombreuses recherches. En 97, chargée de cartographier la planète Mars, elle s'entraîne depuis San Francisco à diriger l'équivalent du robot Sojourner dans le désert d'Atacama au Chili.
Vous avez un clavier ici et quelques secondes plus tard, vous avez un robot qui obéit à votre commande. Pour moi, c'est une extension de la pensée humaine et je trouve ça fabuleux.
À partir de 2003, elle mène ses expériences dans des lacs andins. Elle se rend en particulier au sommet du Licancabur à 6000 mètres d'altitude, là où le Laguna Verde est soumis aux mêmes conditions que celles qui existaient sur Mars il y a 3,5 milliards d'années.
At the very moment we enter that lake, we are stepping back 3.5 billion years in the past of another planet. And then we are going to get the answer we came for. Life is everywhere.
Dans À l'aube de nouveaux horizons, elle pose la grande question, sommes-nous seuls dans l'univers? Page 229, elle précise, avec un minimum de 300 millions d'exoplanètes potentiellement situées dans la zone habitable de leurs étoiles parentes, seulement dans notre galaxie, penser que nous sommes seuls dans cet océan cosmique est tout simplement une absurdité statistique.
Nathalie Cabrol, la recherche de la vie extraterrestre est le but de mon existence. Mais qu'est-ce que c'est la vie? Comment on définit la vie?
C'est une question.
Vous en parlez beaucoup dans
votre
livre.
Oui, c'est le plus grand paradoxe de l'astrobiologie parce qu'on n'a pas une définition de la vie. On a 123 définitions de travail de la vie. Et en fait, certains de mes collègues, et j'en fais aussi partie de ces personnes qui pensent qu'on n'a pas de définition de la vie, mais seulement des descriptions de la vie. Donc, qu'est-ce que c'est la vie? Son origine n'en est pas très sûre non plus. Et peut-être une approche un petit peu plus constructive, c'est de penser à la nature de la vie.
Mais, non, mais alors là, vous nous laissez, nous sommes quoi?
La nature de la vie, on est certainement en train de la chercher, mais ça revient à Schrödinger 80 ans dans le passé, et c'est de la biophysique. Mm-hmm. Et Schrödinger et les nouveaux modèles aujourd'hui pensent que la vie est inévitable dans l'univers parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie qui est le chaos et le désordre.
Alors Carl Sagan, qui était un astronome, qui a fondé l'institut que vous dirigez, disait, et d'ailleurs vous le reprenez, c'est sur la quatrième de couverture, l'absence de preuves de cette vie extraterrestre n'est pas la preuve de l'absence.
Absolument.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes entre la croyance et la statistique, ou vous êtes absolument, résolument du côté de la statistique, du fait qu'il y a tellement de milliards de galaxies qu'il y a nécessairement de la vie là-haut, dans l'univers visible.
Même par accident.
Mais parce qu'on est un peu paumé, pour tout vous dire. Il y a quelques semaines, on a reçu à votre place un autre scientifique, Jean-Pierre Bibring, qui est astrophysicien. Il a notamment participé à la mission Philae. Et il nous assurait, lui, qu'on était seul dans l'univers. Pas de terre, pas de vivant. Nous est-il faute d'étendue d'eau suffisante? La controverse, ça fait partie de la science?
Non, la controverse, c'est pas la controverse, c'est des hypothèses de travail.
Oui.
Et ce que dit Jean-Pierre, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie de la terre rare. Et c'est quelque chose qui a été développé aux environs de 2009-2010, avant la mission Kepler. Et bien sûr, après la mission Kepler, c'était un tout petit peu plus difficile de penser que nous étions seuls, parce que des planètes avec de l'eau, des planètes océans, des étoiles comme le Soleil, tout ça c'est très commun, mais en plus de ça, on a découvert de nouvelles planètes dont on n'avait même pas idée, et des étoiles aussi, qui apportent de nouveaux environnements habitables. Alors ce que fait Jean-Pierre, tout simplement, c'est pousser une théorie et essayer de la documenter. Ça fait partie de l'exercice scientifique, parce qu'on n'est pas là pour accepter simplement statistiquement que quelque chose est vrai ou pas vrai, il faut le documenter. Et sa position, elle est très louable, parce qu'elle nous force à réfléchir sur les arguments dont on a besoin pour prouver la position inverse.
Parfois, je pense que le signe le plus sûr de l'existence d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers, c'est qu'aucune n'a essayé de nous contacter. On dirait du Cioran ou du Woody Allen, ça n'est pas de vous.
Non, ça n'est pas de moi.
Mais c'est dans la bande dessinée américaine Calvin and Hobbes que vous préférez. C'est absolument génial.
Oui, et
ça vous stimule et vous mettez ça quand vous signez vos mails. Hein, c'est
oui,
ça
fait très bien pour le directeur.
Bah, bien sûr.
Mais si on se prenait au sérieux, on aurait vraiment ce
n'empêche dommage. Qu'il peut y avoir, il peut y avoir un embryon de vérité dans une blague.
Bien, si on prend le paradoxe de Fermi, ça fait partie d'une des hypothèses. Non pas parce que nous serions trop stupides, mais simplement parce que peut-être nous ne sommes pas suffisamment évolués pour intéresser les extraterrestres. Mais encore une fois, c'est une vision très anthropocentrique.
Il y a eu de la vie sur Mars ? De la vie, par rapport à ces fameuses briques de la vie que vous évoquiez, il y a eu de la vie il y a quelques milliards d'années ?
Alors pour Mars, la planète est trop petite, elle n'a pas suffisamment d'énergie pour aboutir à des formes de vie complexes, mais certainement, Mars est intéressante parce qu'elle a les mêmes briques de la vie que la Terre, elle avait un environnement très semblable, et chose qu'on sait depuis peu de temps, c'est des modèles qui nous montrent que Mars a démarré avant la Terre, elle avait un océan à sa surface avant la Terre, elle avait des conditions habitables avant la Terre. Donc l'idée qu'il y ait des échanges de matériaux entre Mars et la Terre, peut-être que c'est cette chimie prébiotique, ou peut-être même le début de la vie, a migré de Mars à la Terre, et peut-être nous sommes les Martiens que nous cherchons.
Je voudrais que vous commentiez une des images les plus dingues de 2022, qui a été enregistrée par le télescope James Webb, télescope spatial. Les piliers de la création, cette image est dans votre livre, on va la voir en grand. C'est une vision extraordinaire des jeunes étoiles, c'est ça ?
C'est une pépinière, c'est un berceau d'étoiles.
C'est à 4500 années-lumière, au moins ?
Au moins, oui. Vous avez un fond d'étoiles. Bon, il y a des distances tout à fait différentes dans cette image. Mais c'est la formation d'étoiles, la formation de mondes potentiels. Ouais. Aussi. Aujourd'hui, on sait qu'autour de chacune des étoiles, en moyenne, il y a au moins une planète. Il y a probablement plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie et probablement dans toutes les autres galaxies. Il y a 125 milliards de galaxies dont on connaît l'existence. James Webb, c'est aussi la première image de fond de ciel. Et oui. Dans cette image, on continue d'en parler aujourd'hui parce que la révolution cosmologique, elle s'annonce là.
Alors, on va évoquer avec vous, Nathalie Cabrol, et avec vous, Nadia, la découverte d'une nouvelle vie sur Terre. Oui. Microbienne.
Ouais, c'est une découverte qui fait beaucoup de bruit dans le monde scientifique. Elle a été décrite il y a quelques jours dans la revue Nature. Ce sont deux nouveaux types de microbes qui étaient jusqu'ici totalement inconnus, qui ont été détectés, identifiés. Ce sont des organismes extrêmement rares. Ils ont été trouvés dans des échantillons d'eau en mer Rouge notamment. Ils ont la particularité d'être des prédateurs. Ils sont pas très sympas. Ils dévorent leur proie, si j'ai bien compris. On les surnomme d'ailleurs les lions microbiens. Et les chercheurs dans cette revue vont jusqu'à dire que ces nouvelles branche de l'arbre du vivant. Ça veut dire que même sur Terre, on ne sait pas tout de la vie et qu'il faut continuer à explorer notre planète à nous ?
Absolument, absolument. Et ce que fait l'astrobiologie, en fait, c'est pour essayer de comprendre les mondes qui existent au-delà de la Terre, va explorer les environnements extrêmes terrestres. Et c'est dans ces conditions qu'on découvre des organismes comme celui-là. L'idée d'une nouvelle branche est extrêmement intéressante.
C'est fascinant,
Et il y a encore quelque chose de plus provocateur dans la recherche de la vie sur Terre, c'est qu'il y a aussi la théorie de la biosphère de l'ombre. Ouais. Et donc, peut-être la formation d'un arbre différent de vie sur Terre, qui serait tellement différent qu'on ne serait pas capable de le reconnaître et même pas capable de le tester, puisque nos tests sont faits pour la vie que nous connaissons. Ouais. C'est quelque chose d'absolument fondamental pour nous aider à chercher la vie ailleurs. La vie telle que nous ne la connaissons pas, ça ne veut pas dire que la biosphère de l'ombre existe, mais la théorie en elle-même, comme ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, ça nous force à penser comment on peut chercher la vie que nous ne connaissons pas.
Nathalie Cabrol, vous écrivez à la fin, page 331, un jour nous nous installerons sur la Lune et sur Mars, nous créerons des avant-postes sur des astéroïdes, peut-être même sur Titan. Mais vous êtes comme Elon Musk, il faudra des planètes B, on va quitter la Terre.
Non. Non.
Ah bon, c'est pas la même vision.
Certainement pas comme Elon Musk.
D'accord, c'est pas la même vision.
Il a une vision à laquelle je m'oppose
très bien,
très fortement, parce que la vision d'Elon Musk, c'est qu'il faut quitter la Terre parce que on a dégradé l'environnement terrestre. En fait, on est à l'heure actuelle dans une période de crise, mais nous avons en face de nous tous les éléments, en fait, en tant que civilisation adolescente, pour pouvoir comprendre les leçons de ce qui se passe. Et les leçons, elles se trouvent dans le système solaire, dans les planètes que nous avons en face de nous. Vénus nous montre ce qui se passe quand on a un effet d'emballement avec le dioxyde de carbone, par exemple, et une planète qui se réchauffe. Mars nous montre ce qui se passe quand on perd l'eau à la surface d'une planète. On peut prendre ces leçons, développer des instruments, des technologies pour essayer de surveiller ce qui se passe, les ramener sur Terre et faire des progrès dans la connaissance de notre planète. Partir sur d'autres planètes, c'est inéluctable, ça fait partie de notre ADN. Nous sommes des explorateurs, mais partir avec cette excuse-là, non, on part toujours avec soi-même. Comment on exportera nos problèmes.
Comment passer d'une civilisation adolescente à une civilisation adulte et cesser avec l'hubris et le déni, vous en parlez. D'ailleurs, ce sont des pistes que vous offrez à la fin de votre essai, Nathalie Cabrol, magnifique, à l'aube de nouveaux horizons, aux éditions du Seuil. Il est sorti, il sort aujourd'hui.
Il sort demain.
Formidable. Merci encore d'être